Chapitre 23. Parlement mondial des religions, Melbourne, Australie. Dans l'amphithéâtre du Parlement mondial des religions, seul le bruit obsédant des pages froissées troublait le silence. Le rapport RS2A 2014 était feuilleté par tous comme s'il s'agissait d'un grimoire maléfique, le livre d'un diable capable d'effrayer toutes les religions. Padma attendait sur le côté, discrète, les bras croisés sur son tailleur marine. Elle observa l'assemblée. Elle adorait cette ambiance. Ce mélange incroyable d'hommes de foi venus des quatre coins du monde, cette ruche spirituelle où l'on parlait toutes les langues de la terre. Elle se concentra et observa le frère Mozavi devant elle. Il tournait avec application les pages du rapport RS2A 2014. Elle serra la petite enveloppe bleue entre ses doigts manucurés. Elle était une flèche tendue qui atteindrait sa cible le moment venu. À la tribune, Viorel Unor se pencha sur le micro.
Je suppose que la plupart d'entre vous avaient lu le dossier.
L'expression « anomalie d'Ararat », expliqua-t-il, était née après les observations aériennes américaines de l'US Air Force en 1949. Sur les clichés, une tache sombre apparaissait au sommet du mont Ararat, de forme ovale, longue d'une petite centaine de mètres, comme prise dans les glaces. Les films de 1949 seraient classés secret défense pendant près de 50 ans par la CIA, mais d'autres photographies de l'anomalie d'Ararat seraient prises régulièrement par d'autres missions aériennes, en 1956, 1973, 1976, 1990 et 1992. Presque toujours en été, lorsque la fonte des neiges est maximale. Depuis une vingtaine d'années, l'anomalie d'Ararat pouvait être visualisée en temps réel par les images satellites. À la différence des découvertes de Fernand Navarra ou de l'équipe de Hong Kong en 2007, réalisées dans la gorge d'Ahora, sur le flanc nord-ouest du mont entre 3900 et 4300 mètres d'altitude, l'anomalie d'Ararat était localisée à proximité du sommet, sur le plateau occidental, à plus de 5000 mètres d'altitude. Sans ralentir son débit, Unor leva les yeux vers Padma. C'était le signe.
Vous l'avez donc compris, il existe deux théories distinctes. Celle d'Ahora est la principale. Pour résumer, c'est celle de Navarra, de Roskovitsky, de Knight, de Green, de Nouri, du berger Resit et du soldat Agopian, et depuis 2007, de la délégation adventiste de Hong Kong. Une belle cohorte de témoins qui s'opposent pourtant à la théorie de l'anomalie d'Ararat, une masse prise dans les glaces au sommet. Nous nous trouvons donc face à deux faisceaux de preuves. Chacun assez convaincant, mais contradictoire.
Un grand sourire fendit la barbe du métropolite. Il ne put s'empêcher de regarder William Crick.
Deux arches, c'est au moins une de trop. Même les adeptes de la lecture la plus littérale de la Bible en conviendront avec moi.
Quelques rires discrets se dispersèrent dans l'hémicycle. William Crick s'agita sur son siège, appréciant modérément le trait d'humour du métropolite. Padma se faufilait dans les travées.
Pour en revenir à l'anomalie d'Ararat, continua Viorel Unor, divers experts en télédétection démontrèrent que la tache sombre pouvait avoir de multiples autres explications que celle d'un vaisseau pris dans les neiges éternelles. Une différence d'épaisseur des couches de glace, des roches affleurantes, des ombres créant une illusion d'optique. Toutes ces théories sont exposées en détail dans le dossier devant vous, des pages 12 à 25. Elles ne sont cependant pas suffisantes pour convaincre les chercheurs d'Arche de Noé. En 2004, l'anomalie d'Ararat fit pour la première fois la une des journaux. L'homme d'affaires hawaïen Daniel McGivern acheta des images satellites originales de la région d'Ararat et commanda des traitements spécifiques. Il annonça aux médias du monde entier, images à l'appui, qu'une masse sombre de la forme théorique de l'arche attendait dans les glaces en haut du mont Ararat qu'on vienne la dégager. Et puisque McGivern était milliardaire, il ajouta qu'il mettrait près $1 million pour monter une expédition jusqu'au sommet, tout en commençant à envisager sérieusement des moyens pour déblayer les 800 000 mètres cubes de glace au sommet. Mais...
Padma posa l'enveloppe bleue sur la tablette d'acajou devant le frère Mozavi et s'éclipsa dans le même mouvement gracile. Au même instant, plus bas dans l'hémicycle, une voix s'éleva, surprenant l'auditoire. On aurait pu croire que l'enchaînement avait été savamment préparé entre les deux hommes. Viorel Unor et le représentant kurde.
« Monsieur le Président, » fit l'ecclésiastique kurde, « j'étais à Van en 2004, aux premières loges pour ainsi dire. Le projet de McGivern échoua non pas par manque d'argent, de conviction ou de soutien populaire, mais tout simplement parce que les autorités turques refusèrent catégoriquement l'accès au sommet.
Le métropolite reprit la balle au bond.
Tout à fait. Dans les semaines qui suivirent, la CIA, puis la National Geographic Society, accusèrent McGivern d'avoir truqué les images. Le projet fou du milliardaire, déblayer les glaces de l'Ararat à coups de milliers de dollars, était définitivement enterré. Mais...
Pour le frère Mozavi, lui étonné le Mennonite. Il déchira l'enveloppe et déchiffra les mots griffonnés.
Mais, poursuivait Unor, quelques années plus tard survint un nouvel élément que personne n'avait prévu lorsque le projet McGivern fut discrédité. Un nouvel élément que nous devons affronter aujourd'hui.
Il toussa et continua.
Selon le rapport RS2A 2014 du DIRS de Toulouse, l'épaisseur de glace en haut de l'Ararat a fondu de 10% en 2 ans. Cela signifie, en d'autres termes, que ce que ce milliardaire d'Honolulu voulait faire pour des millions de dollars, la nature s'en charge gratuitement. Et nous n'y pouvons strictement rien.
Un étrange silence, mélange d'inquiétude, de tension et d'incompréhension, envahissait peu à peu l'amphithéâtre.
Il faut voir le côté positif des choses,
glissa William Creek sur le ton d'un convive qui tente de dégeler l'atmosphère avec une bonne blague.
C'est au moins un bon motif pour convaincre les dirigeants de la planète de lutter contre le réchauffement climatique.
Quelques rires gênés s'élevèrent dans l'amphithéâtre. Les mots dansaient devant les yeux de Mozavi. Mon frère, faites-moi confiance. Laissez aujourd'hui s'exprimer ceux qui détiennent la juste connaissance. Gardez le silence. Rencontrons-nous dès demain, à l'aurore, plage de Saint-Kilda, seul. Je vous initierai, si du moins vous souhaitez porter sur vos épaules un secret lourd au point d'ébranler toutes les convictions qui jusqu'à ce jour ont commandé vos actes. Sincèrement, Viorel Unor. Le pasteur Mennonite passa une main moite sur son front. Les pensées de Mozavi se bousculaient. D'évidence, la majorité des prêtres présents connaissaient la véritable nature de la forme prise dans les glaces de l'Ararat. Cette vérité qu'Unor affirmait lui révéler. Dans l'hémicycle, le cardinal leva un doigt déterminé.
Viorel, de combien de temps disposons-nous?
Tout dépend, Lorenzo. Le rapport RS2A dit que...
Ce satané rapport comporte des dizaines de pages d'équations. Sois précis, Viorel!
Le couperet tomba.
20 ans si le réchauffement continue à ce rythme. 40 peut-être, si la communauté internationale réagit.
C'était comme si une immense vague de froid avait brusquement saisi l'amphithéâtre.
Et,
continua le cardinal,
il existe un plan?
Un plan?
L'ayatollah à la droite du cardinal s'exprima à son tour.
Je pense que la question du cardinal Sordi est celle qui nous brûle les lèvres à tous. Existe-t-il un plan pour préparer l'opinion mondiale?
D'autres mains se dressèrent avec force. Pas une forêt. Juste quelques mains dispersées des représentants shintoïstes, Rastafari, Vaudou. Pas celle de Mozavi.
Bien,
fit Viorel Unor.
Du calme, messieurs.
Il savait qu'à ce moment précis, il avait besoin du renfort des quelques initiés, les représentants des principales religions monothéistes, de leurs efforts coordonnés. Le cardinal Sordi se leva, comme convenu. Le micro s'alluma aussitôt devant lui.
Mes frères, je propose de donner carte blanche à l'exécutif de notre Parlement. C'est-à-dire vous, Viorel. Il y a là un enjeu qui concerne plus des 3/4 des croyants dans le monde.
La diode rouge des micros indiquant l'ordre de parole dans l'hémicycle exécuta une danse synchronisée. L'imam sunnite confirma. L'ayatollah également.
Faites-moi confiance, relisait Mozavi.
Le grand rabbin prit calmement la parole.
Viorel, nous sommes tous conscients qu'il ne faut pas céder à la panique, même si le temps joue contre nous. Le temps long, la fonte des glaces du mont Ararat, mais également le temps court. De malheureux fidèles ont été assassinés il y a quelques semaines dans la cathédrale Saint-Ekmiadzin. 2 hommes ont été abattus au musée d'Aquitaine de Bordeaux, sauvagement assassinés pour un des fragments d'arche de Fernand Navarra. Il ne peut seulement s'agir de coïncidence.
La voix de l'adventiste William Creek s'éleva en écho.
Entièrement d'accord avec le rabbin Ullman. Il existe forcément un lien entre la diffusion de ce rapport confidentiel et cette succession de massacres. Viorel,
Disposes-tu d'informations nouvelles sur ces fanatiques, ces néphilim ?
Aucune, William. On ne connaît des néphilim que ce qu'ils veulent bien révéler d'eux-mêmes sur leur site internet. Nos services de sécurité travaillent en collaboration étroite avec Interpol. Pour l'instant, nous savons seulement que les néphilim défendent le secret de l'Arche. Le caractère inviolable du mont Ararat dans la lignée des prophéties de Jacob, sans oublier quelques références au livre d'Enoch.
Il y eut quelques murmures dans la salle.
Et qu'ils ont pour symbole la licorne. S'agit-il d'un groupuscule de fanatiques terroristes ? D'une organisation sectaire ? D'une mafia qui dissimule ses trafics derrière un vernis ésotérique ? Il est tout aussi impossible de connaître leur nombre, leur force, leur motivation. Mais rien ne permet d'affirmer que ces néphilim sont liés aux récents attentats.
Muslim al-Bukhari, l'imam sunnite, reprit la parole.
Épargnez-nous les détails, Yorel. Vous avez toute notre confiance pour prendre les bonnes décisions. Le Parlement, j'espère, va voter en ce sens à l'unanimité.
Un murmure d'approbation ponctua les propos du représentant musulman. À cet instant, pour la première fois, Viorel Unor se demanda s'il était digne de leur confiance, s'il disposait de la moindre marge de manœuvre. Tout s'accélérait aux quatre coins du monde. Ces néphilim insaisissables, ces meurtres atroces, ces pièces de l'arche que quelqu'un rassemblait quelque part. Pour quelle mystérieuse raison ? Le temps jouait contre eux. Il repensa une nouvelle fois aux conclusions du rapport RS2A 2014. Le compte à rebours était enclenché. Un jour prochain, c'était une certitude désormais, la vérité éclaterait aux yeux du monde. Une vérité qui balayerait la raison de vivre de milliards de croyants, toutes religions confondues. Il n'avait pas le pouvoir d'empêcher les glaces de l'Ararat de fondre. Faire taire les hommes auparavant, par contre. Il toucha sa croix, pensa à la foudre qu'elle avait le pouvoir de déclencher. Faire taire le frère Mozavi également. Demain.